La première,
podcast. Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset.
Nous sommes le 20 juin 1837, jour de l'accession au trône de Victoria. La jeune reine a 18 ans, mais la vieille monarchie anglaise est au plus mal. La dynastie des Hanovre a été discréditée par la folie du roi George III et par les vies dissolues de ses fils et successeurs, George IV et Guillaume IV. Sur le plan économique et social, la révolution industrielle a entraîné des mutations qui font souffrir la population. À Londres, un quart des femmes se prostituent et le suffrage universel n'existe toujours pas. C'est alors que s'ouvre l'époque que l'on nomme victorienne. Elle va durer près de 64 ans.
Je suis la reine. Je ne peux épouser celui qu'ils veulent que j'épouse.
Vous confondez entêtement et force de caractère, ma chère.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Les jeunes années d'une reine, c'est un film de Jean-Marc Vallée qui retrace donc le parcours de la reine Victoria. Nous, on va le faire aujourd'hui avec Francis Ballas. Bonjour Francis Ballas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alexandrina Victoria est donc née le 24 mai 1819 au palais de Kensington à Londres. Elle meurt 82 ans plus tard, le 22 janvier 1901, à Osborne House sur l'île de Wight. Elle est la fille du quatrième fils donc du roi George III, c'est Édouard, duc de Kent, et d'une princesse allemande, Victoria de Saxe-Cobourg-Saalfeld, qui est en fait la sœur du premier roi des Belges, Léopold Ier. Victoria n'est pas première sur la liste de succession lorsqu'elle naît, la succession au trône de
Non, c'est-à-dire que George III, le roi qui n'a été déclaré officiellement fou qu'en 1810, est remplacé par le prince de Galles comme prince régent, mais qui n'a pu, lui, George IV, se faire couronner qu'au décès de son père en 1820. Il faut dire que le roi George III avait une descendance super abondante, et à côté du prince de Galles, qui est donc George IV, il y a eu le duc d'York, celui qui a commandé une partie des troupes pendant la Révolution française, qui est déjà mort. Il y a le duc de Kent, le père de Victoria, qui est à son second mariage et qui épouse une veuve, parce que Victoire de Saxe-Cobourg est la veuve d'un Allemand, le prince de Leiningen.
Et ce jeu donc des décès vont faire de Victoria l'héritière présomptive.
Parce que le roi qui l'a précédé, Guillaume IV, le roi marin, comme on disait, n'avait aucune descendance. Alors il n'était pas du tout, comme vous l'avez un peu annoncé, un homme dissipé, c'était simplement un homme extrêmement âgé.
D'accord.
Et qui n'avait absolument aucune chance d'avoir des enfants. Et le grand danger pour la nation anglaise, pour le parti libéral en Angleterre, dirigé par des gens comme Peel, etc., c'est que si la petite Victoria, qui est un peu l'enfant du miracle, puisque son père va mourir moins d'un an après sa naissance, disparaissait, le trône passerait à son oncle, le duc Ernest de Cumberland, qui est un Tory hyper réactionnaire, un homme extrêmement violent que la rumeur publique accuse d'ailleurs d'avoir un jour, dans une crise de colère, poignardé son valet de chambre. Et alors les Anglais, n'importe quoi sauf le duc de Cumberland, et la grande chance, c'est que au traité de Vienne de 1815, l'ancien électorat de Hanovre a été transformé en royaume. Souverains précédents ont été rois du Royaume-Uni et du Hanovre, mais le Hanovre a la loi salique et on va donc pouvoir se débarrasser du vilain tonton en faisant le roi du Hanovre, tandis qu'en Grande-Bretagne, les femmes peuvent monter sur le trône et ce sera le couronnement de Victoria.
Alors revenons un petit peu en avant de ce couronnement. La reine Victoria décrit, qui a beaucoup écrit, elle décrit son enfance comme une enfance plutôt triste, élevée à l'écart des autres enfants, d'ailleurs dans des systèmes très stricts, très protocolaires.
Oui, et surtout parce qu'on craint un attentat commis par des sicaires d'Ernest de Cumberland. Il n'y a rien de plus facile que de pousser une petite fille dans un étang pendant qu'elle joue au bord ou des choses de ce genre-là. Et c'est Léopold, qui est le veuf de la princesse de Galles, Charlotte, la fille de George IV, qui va veiller sur une enfant qui est à la fois sa filleule et sa nièce. Ouais. il est en quelque sorte une espèce de subrogé tuteur, et jusque la mort de Léopold Ier en 1865, Victoria lui écrira pratiquement tous les deux jours « My beloved uncle », etc. Et lui-même considère l'Angleterre comme son home, le home le plus vrai.
On dit que sa mère également essaie de la tenir éloignée de la cour et de la famille royale parce que cette famille était un peu pour elle infréquentable du fait que les enfants illégitimes, par exemple, du roi étaient à la cour.
Oui, mais il y avait certainement, vous savez, les périodes de régence, que ce soit en France ou en Angleterre, peut-être même chez nous aussi à un certain moment, sont considérées comme des périodes très souples. Au point de vue des mœurs. Et alors vous avez surtout l'Angleterre qui, 5 ans avant qu'elle ne monte sur le trône, réalise le Reform Bill, c'est-à-dire la plus grande réforme politique que l'on puisse trouver, avec la suppression des bourgs pourris, c'est-à-dire des villes qui avaient eu le droit d'avoir 2 députés au Moyen-Âge, mais qui étaient devenues des bourgades insignifiantes où il y avait 100 d'électeurs seulement, d'où une corruption extraordinaire. Et le Reform Bill a changé la carte, si vous voulez, de la politique intérieure de la Grande-Bretagne et a entraîné aussi des mutations comme la suppression de l'esclavage dans les colonies britanniques en 1832.
L'un des plus longs règnes des monarchies européennes, c'est celui de Victoria. Nous sommes aujourd'hui avec Francis Ballas.
Son Altesse Royale, la princesse Victoria de Kent.
À partir de maintenant, chacun voudra vous plaire pour en tirer avantage.
Vous êtes trop jeune et sans aucune expérience.
Disparaissez de ma vue.
Si vous avez besoin d'un allié, comptez sur moi. Albert.
Le Premier ministre Lord Melbourne, il saura en tirer avantage.
Vous êtes la prochaine pièce du jeu.
Je vais en Angleterre lui redonner le sourire.
Un jour dans l'histoire.
Le 20 juin 1837, Guillaume IV meurt, il a 71 ans. Victoria, elle vient de fêter ses 18 ans, Lisa, un mois plus tôt. Elle devient donc reine du Royaume-Uni. Il y a un personnage, on vient de l'évoquer là dans l'extrait que l'on a entendu, Francis Ballas. Il y a un personnage qui sera important pour le début de son règne, c'est le Premier ministre Lord Melbourne. Quel rôle joue-t-il ?
Ben Melbourne, c'est celui qui représente, il ne faut pas oublier que l'Angleterre est une monarchie constitutionnelle, mais qui n'a pas de constitution écrite. Mmh. Nous connaissons tous la formule « le roi règne et ne gouverne pas ». Alors il faut dire qu'à l'époque, une jouvencelle sur le trône, ben, il y avait la tentation très forte pour le monde politique, qu'il s'agisse des libéraux ou des Tories, les Whigs et les Tories, de lui en imposer. C'est aussi l'époque où il y a une crise terrible en Grande-Bretagne, dont elle va sortir par la colonisation de terrains qui ne produisent pas des produits coloniaux très rentables, mais qui sont vides, où on peut envoyer l'excédent de population. L'Australie, c'est pas hasard si vous avez Melbourne en Australie. Ouais. Et surtout, le problème, c'est qu'il faut continuer la dynastie de Hanovre, qui était luthérienne à l'origine, parce que le roi est defender of the faith, défenseur de la foi, et que une politique de mariage amènerait des catholiques sur le trône, les guerres civiles recommenceraient.
Alors, arrivons-en à son mariage. Le couronnement de Victoria a eu lieu le 28 juin 1838. Elle est donc le premier souverain aussi à résider au palais de Buckingham, pour l'anecdote. Mais elle est toujours célibataire. Alors, on imagine que son mariage, effectivement, est une affaire diplomatique de la plus haute importance.
Oui, parce que dans le machisme de l'époque, il faut bien choisir le mari. Mmh. Il ne faut pas un homme ayant trop d'ascendants et qui serait le roi non couronné de Grande-Bretagne à travers sa femme. Et vous avez de l'autre côté Léopold, qui est maintenant sur le trône de Belgique et qui se conduit un peu, si vous me passez l'expression, comme ce qu'on appelle une marieuse juive. On dit qu'il est à la tête de ce qu'on appelle dans les chancelleries le harakobourg, c'est-à-dire qu'il a une collection de neveux, bien de leur personne, et dont il va peupler, en recommandant les mariages, tous les trônes européens. Vous avez Albert, qu'on va faire rencontrer à Victoria, et quoi que vous ayez comme film un peu du style Sissi sur l'amourette immédiate, ce n'est pas vrai. Et surtout, les Anglais s'en méfient beaucoup. Vous savez qu'il faudra attendre pratiquement 15 ans de présence en Grande-Bretagne pour qu'on lui donne la nationalité anglaise et en face à un prince consort. Ouais. Jusque-là, il est l'époux de la reine. Et Léopold va mettre le frère d'Albert, Ferdinand, dans le lit de Dona Maria de Portugal, et là, il va être le prince consort du Portugal. Chaque fois qu'il y a une opportunité, l'oncle Léopold sort un cobourg de sa poche et organisera même le mariage de sa belle-sœur, Clémentine d'Orléans, avec un cobourg autrichien, ce qui fait que les souverains de Bulgarie, plus tard, seront aussi des Saxe-Cobourg.
On dit toujours que la Victoria est la grand-mère de l'Europe. On pourrait dire alors de Léopold qu'il est le grand-père de l'Europe ?
Le grand-père, je dirais le parrain de l'Europe. Mmh. Tandis que Victoria est la grand-mère parce que il est vrai qu'elle a découvert les joies du mariage après celui-ci, et qu'avec son cher Albert, my beloved Albert, my angel, comme elle l'appelle dans sa correspondance, ben elle a repeuplé le Royaume-Uni, puisqu'elle a eu 9 enfants en série pratiquement continue, 9 enfants qui, à leur tour, par l'intervention ou pas d'oncle Léopold jusqu'à 1865, ou de ministres anglais par la suite, ont peuplé les dynasties européennes. Sa fille aînée, Victoria, Vicky pour les intimes, deviendra l'impératrice allemande pendant quelques mois et sera la mère du Kaiser Guillaume II.
Et on dit pourtant qu'elle n'aimait pas être enceinte, Victoria.
Non, mais c'était très pénible à l'époque. Mais il faut croire qu'Albert savait y faire.
D'accord.
Parce que quand on s'est inquiété très fort à la cour de Belgique sur la virilité de Léopold II, c'était un faux bruit, parce qu'après plusieurs années de mariage, il n'avait pas d'enfant, on l'a envoyé se recycler chez cher cousin Albert, et il existe à Windsor une lettre où il remercie cher cousin Albert de ses conseils si sages et surtout si pratiques, ayant enfin porté leurs fruits.
Alors vous le disiez, peut-être au départ, c'est pas un mariage d'amour, mais ça le devient, elle l'appelle My Beloved Albert, mais qui est un personnage influent, n'empêche, ce Albert, c'est le conseiller, un des conseillers de la reine.
C'est le conseiller, mais en même temps, vous avez une vive résistance dans le monde politique britannique. Certaines choses ne se font pas en Grande-Bretagne parce qu'Albert désire qu'elles se fassent ou parce que l'oncle Léopold désire qu'elles se fassent. Ouais. Et notamment, dans les années 1860, Palmerston et Russell vont contrecarrer les conseils et les souhaits de Léopold Ier.
Alors on l'a dit, plutôt populaire en tous les cas au début de son règne, la reine Victoria, elle échappe quand même à plusieurs attentats.
Oui.
Populaire, c'est quand même pas le cas dans tout l'Empire. En Irlande, par exemple, on la surnomme The Famine Queen, la reine famine.
Oui, parce
que
vous avez la famine d'Irlande de 1846-48, qui, alors qu'on parle maintenant de famine dans le tiers-monde, a quand même fait 2 millions de morts en Europe occidentale.
Mmh. C'est la maladie, la fameuse maladie de la
pomme de terre. Mais surtout, vous avez un autre phénomène, c'est la respectabilité.
Ouais.
Ce qui fait que quand on... C'est le grand paradoxe de l'histoire. Victoria n'a rien fait par elle-même, mais l'époque victorienne est l'époque de la plus grande gloire du Royaume-Uni et de l'Empire britannique.
Alors on va voir avec vous justement, Francis Ballas, quel est le rôle politique véritable de la reine Victoria sur le plan intérieur et sur le plan international.
N'avez-vous jamais l'impression d'être la pièce d'un échiquier que l'on déplace contre sa volonté?
Et vous?
Constamment. Je les vois bien intriguer et me déplacer tel un pion.
La duchesse et Sir John?
Pas seulement. Oncle Léopold, le roi, je suis sûre que la moitié des politiciens veulent m'attraper et réussir à me déplacer de case en case. Vous savez que le roi veut me faire épouser mon cousin Georges.
Hmm. Est-il doué aux échecs?
Tous les jours, 13h30, 14h30, un jour dans l'histoire.
Voilà, une Victoria à la sauce Sissi, comme vous le disiez tout à l'heure, Francis Ballas. Alors, le rôle politique intérieur réel de la reine Victoria, quel est-il?
Mais il est à peu près nul. C'est-à-dire que vous avez les ministres qui, avec beaucoup de déférence, qu'ils soient libéraux ou qu'ils soient tories, vont lui apporter le matin les fameuses red boxes qui existent toujours d'ailleurs et qui contiennent les rapports sur lesquels elle doit jeter un coup d'œil. Mais il est évident que dans la coulisse, c'est Albert qui lui donne des conseils. Et une des crises, si vous voulez, dans les rapports affectueux entre Victoria et son cher oncle Léopold, c'est quand, après le décès du prince Albert, fin 1861, elle aura accès à ses papiers et elle découvrira des dizaines de lettres de Léopold disant « N'en parle pas à ta femme, elle n'est pas assez intelligente pour comprendre », d'où un certain froid dans la famille. Mais ce qui est important, c'est que, avec ce souci de respectabilité, la reine devient une espèce d'icône. Mmh. On la voit encore pendant la guerre de Crimée passer des revues des troupes à cheval, mais au moment du décès de son mari, qui meurt d'un bête refroidissement qui tourne à pneumonie, parce qu'on n'a pas d'antibiotiques à l'époque, en décembre 61, elle va traverser des crises de mysticisme, des crises d'agoraphobie, qui vont devenir un problème majeur en Angleterre. Parce que on ne voit plus la reine. Ouais. Et il est beaucoup plus facile, si vous appartenez à un parti qui est dans l'opposition, de critiquer l'ensemble de la politique que de s'en prendre à la reine. Et il faudra véritablement que certains de ces ministres aillent pratiquement se mettre à genoux à Windsor, où elle s'est retirée, quand elle n'est pas à Balmoral, j'en reparlerai dans un moment, pour lui dire « Madame, si vous voulez que la monarchie soit sauvée en Grande-Bretagne, de grâce, montrez-vous. Ouais. » Et un autre paradoxe, c'est que cette femme que personne ne voit, qui, jusqu'à sa mort, sera vêtue en veuve, avec ce qu'on appelle un bonnet de veuve, peut-être parce qu'on ne la voit pas, est dotée d'une espèce d'aura extraordinaire. C'est la grande reine blanche pour des millions de sujets dans l'Empire britannique. Et parfois même, certains chefs indigènes ne conçoivent pas qui c'est. Il y a la fameuse réflexion du chef ou de petit roitelet du Nil du Pacifique qui est amené à Londres pour faire sa cour à la reine et qui s'exclame « Mon Dieu, la reine est une femme ». Parce que la reine, « the queen », God save the Queen, pour beaucoup d'indigènes, on ne visualisait même pas ce que c'était. Et elle va aussi, à son corps défendant, porter un titre qui s'éteindra en 1947 à l'indépendance du continent indien, le titre d'impératrice des Indes.
Avec quoi, une volonté et une conscience ferme que c'est la civilisation que l'on apporte au peuple indigène.
Non, je crois surtout que c'est une combinaison.
D'accord.
Il faut vous dire que l'Inde, jusque la révolte des Sipais en 1857, est une compagnie privée, l'Honorable East India Company. Et on se rend compte que ça ne fonctionne pas forcément au bénéfice des indigènes qu'elle administre. Par conséquent, on va supprimer la compagnie et ça va devenir la British India. Mais cette British India, le Bengale, la région de Madras et la région de Bombay, ne représentent qu'un tiers du continent indien. Le reste, ce sont des états princiers, avec des maharajas et des rajas et des nizams, tout ce que vous pouvez imaginer. Et on va donc s'inspirer de ce qu'avait été le Saint-Empire romain germanique en fusionnant des États, certains l'Hyderabad sont plus grands que la France, qui reconnaissent la reine comme impératrice par une espèce de serment féodal, et des territoires qui sont de pures colonies, comme ceux que j'ai cités.
Alors, en matière européenne, on dit qu'elle a beaucoup travaillé au rapprochement avec la France. Alors, est-ce que, là aussi, c'est une intention, ou est-ce que réellement elle a eu un rôle?
Bon, ça dépend les périodes. Par exemple, elle est à peine sur le trône depuis 2 ans, qu'éclate ce qu'on appelle la crise d'Orient. L'Angleterre et la France ont une politique absolument antinomique dans ce qu'on appelle le Moyen-Orient à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la France soutient Mehmet Ali, le khédive d'Égypte qui essaye de s'emparer du pouvoir à Constantinople. L'Angleterre, au nom de la protection de la route des Indes, soutiendrait plutôt le maintien de l'Empire ottoman tel qu'il est. Et ça, c'est la rupture de ce qui avait existé sous Louis-Philippe et qui avait permis, d'ailleurs, la constitution de la Belgique. C'est l'entente cordiale, c'est la première fois qu'on dit le mot. Puis en 40, tout est rompu. Et l'intelligence de Victoria, peut-être conseillée par Albert et par son oncle qui craignait beaucoup la France à l'époque, a été de se rapprocher de Napoléon III. Les Anglais vont se battre aux côtés des Français en Crimée de 1854 à 56, d'organiser des déplacements en grande pompe en France, de forcer le petit prince de Galles, le futur Édouard VII, de s'agenouiller et de dire ses prières devant le tombeau de Napoléon. Mm-hmm. Quand on connaît Sainte-Hélène, il faut le faire, évidemment. Et, par exemple, anecdote, si les Saint-Cyriens ont un plumet rouge et blanc sur leur shako, c'est en hommage à la reine Victoria.
On va voir, on va se pencher avec vous pour les cinq dernières minutes, Francis Ballas, sur ce qu'on appelle justement cette ère, cette époque victorienne si corsetée, hein, si puritaine.
Je viens juste de recevoir votre billet. Je me promenais.
Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Le parc est merveilleux.
Je suis ravie que vous l'aimiez. Je veux que vous vous sentiez ici chez vous. Je suis sûre que vous soupçonnez pourquoi je vous ai fait venir. Parce que rien ne me rendrait plus heureuse, très chère. Trop heureuse, en vérité, si vous acceptiez ce que je souhaite.
Que je reste auprès de vous.
Que vous restiez auprès de moi.
Et vous épouse.
Et que vous m'épousiez.
Alors il y a aussi sur le parcours la présence, le parcours de Victoria, la présence de John Brown, hein, qui était ce domestique écossais avec qui elle a eu une relation très très étroite, dit-on. Francis Ballas, anecdotique ou réellement, est-ce que ça a eu un enjeu?
Je crois que ça ne dépassait vraiment pas la personne de confiance sur laquelle on peut s'appuyer. C'est un gueulis, hein, c'est un guide de chasse qui l'emmène dans les Highlands, parce que c'est aussi la reine qui, les Écossais ne font pas oublier, ça avait été au XVIIIe siècle, les opposants à la dynastie de Hanovre. Mm-hmm. Et c'est à elle qu'on doit une grande partie du Scottish Revival, les kilts, le goût pour les bagpipes, la résidence de Balmoral, qui d'ailleurs est absolument horrible au point de vue architectural. Mais ce qui est important, c'est que à force d'être sublimée, on finit par ne plus la voir comme un être humain. Il y a l'anecdote fameuse lors d'une visite avant la mort de son mari à l'exposition de Londres en 1851. Négociant lui offre une paire de bas et est repoussé par un aide de camp qui dit « Sa Majesté n'a pas de jambes ». Mais en même temps, il y a cette prolifération de grand-mères de l'Europe, leur verre de la médaille. La transmission par elle de l'hémophilie dans la plupart des cours européennes. Sa petite fille, c'est tout de même la tsarine Alexandra. Un prince de Prusse via Vicky, Sigismond de Prusse, est hémophile. À la cour de Hesse-Darmstadt, où elle a envoyé sa fille Alix, il y a plusieurs cas d'hémophilie. Et sa petite-fille, Victoria Eugenia, l'épouse du roi Alphonse XIII d'Espagne, va avoir des enfants hémophiles.
Et donc le Tsarevitch, vous le disiez, le fils de Nicolas II, était lui aussi hémophile. Alors cette morale victorienne, Francis Ballas, est-ce qu'elle est le résultat, au fond, d'une évolution au cours des siècles, des mentalités, des mœurs, ou est-ce que Victoria est vraiment la colonne vertébrale, est-ce que c'est son empreinte?
Non, c'est objectivement une gigantesque hypocrisie. Mmh. On disait couramment, vous savez que le décalogue, les dix commandements en anglais, c'est avec les vieilles formes, zoo, etc. Mmh. Et on disait que sous Victoria, on avait inventé le 11e commandement. Zoo shall not be coughed, tu ne te feras pas attraper. C'est-à-dire que Londres est la cité des bordels de luxe. Ouais. Londres est la cité où on joue, et la série de scandales, par exemple, dans lesquels va être pris l'héritier du trône, le futur Édouard VII, qui lui se ronge les ongles, hein, puisque quand sa mère mourra à un âge avancé, il est lui-même dans un tel état physique qu'on devra postposer son couronnement jusqu'en 1903. Il est sur le billard. Donc il y a cette image d'une rigueur de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, maintain a stiff upper lip, hein, garder un sourire un peu contraint, mais il est évident que le jeu, les combats de coq, les combats, l'homosexualité dans les collèges, tout ça existe, sauf qu'il ne faut pas se faire prendre, comme Oscar Wilde l'apprendra à son grand détriment.
Est-ce qu'elle aura travaillé à un peu plus de démocratie quand même? Il y a quand même eu des réformes.
Oui, c'est-à-dire que on a élargi successivement le droit de suffrage. Oui. La dernière grande réforme étant sous son règne en 1896, qui aboutit pratiquement au suffrage universel, oui, masculin bien entendu, puisque c'est son fils Édouard VII qui aura sur le dos les manifestations de suffragettes.
Voilà, Victoria meurt le 22 janvier 1901 sur l'île de Wight au terme d'un règne qui aura duré presque 64 ans. C'est le plus long règne européen du XXe siècle, en tout cas.
Oui, et dont le point d'apogée, c'est ce qu'on appelle le jubilé de diamant. Oui. C'est-à-dire ces 60 ans de règne qui sont célébrés à Londres en 1897. C'est le sommet de l'impérialisme britannique. Ouais. On a amené par bateau des contingents indiens, des contingents d'Australie, de partout. C'est rule Britannia. Britannia gouverne les mers. Une débauche absolument de fierté, ce qu'on a appelé le jingoïsme, hein, c'est-à-dire le stade le plus élevé du nationalisme anglais. Et surtout, c'est l'époque aussi, nous l'oublions pas, du splendid isolation, l'Angleterre n'est alliée avec personne.
Ouais. Merci beaucoup Francis Ballas. Je parlais du plus long règne du 20e, c'est du 19e siècle bien sûr. Merci beaucoup à vous Francis Ballas d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Vous étiez en direct en duplex de Liège à un de ces jours. Francis Ballas, merci.